Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pierre Ouverte. On se retrouve cette semaine encore pour la série Le Lot, c'est tout un art. Le Lot, c'est tout un art en compagnie des étudiants du master de patrimoine de Cahors. Aujourd'hui, on reçoit Maïlys Bonnet. Bonjour Maïlys.
Bonjour.
Maïlys, vous avez travaillé en premier lieu sur la DATAR. Qu'est-ce que c'est que cet organisme ?
Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que l'acronyme DATAR signifie Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Et en fait, c'est une organisation donc qui a été créée par décret du 14 février 1963 et qui dépend directement du Premier ministre. Parmi les missions qui lui sont confiées, il y a notamment le renforcement de l'attractivité des territoires et la garantie de leur cohésion. Et donc, pour atteindre ces objectifs, ils mettent plusieurs actions en place.
Et cette DATAR, du coup, elle reçoit une mission le 18 avril 1983. Quelle est cette mission ?
Oui, alors il s'agit d'une campagne photographique qui prend place sur tout le territoire français et donc le commencement est décidé à l'occasion des 20 ans de la structure le 18 avril 1983.
Quelle démarche est-ce que les photographes sont invités à adopter ?
Alors tous les photographes sont invités à adopter une démarche qui valorise l'expérimentation du territoire et en ce sens ils peuvent traiter le thème du paysage selon leur sensibilité artistique propre. Ce qui leur permet d'aborder ce sujet de différentes manières. Donc, c'est-à-dire que certains ont travaillé sur les lignes de chemin de fer, d'autres sur l'automobile et d'autres encore sur le paysage urbain, par exemple. Tous, cependant, ont gardé ce lien au paysage et ils ne sont pas obligés de localiser leur prise de vue. Ça participe à la dimension artistique de ces clichés, ça les éloigne aussi d'un travail d'inventaire par rapport à ce qui avait pu être réalisé pour la mission hylographique en 1851.
Et qui est-ce qu'on retrouve dans le Lot, du coup ?
Alors, puisque les photographes ne sont pas obligés de localiser leur prise de vue, on ne peut avoir aucune certitude quant à la situation exacte des paysages rapportés par ceux qui ont traité la région Midi-Pyrénées, aujourd'hui Occitanie. Donc nous savons toutefois que donc cette région a été traitée par Holger Truls, Pierre de Fenoil, Richard Paré, Jean-Louis Garnel ou encore Albert Jordan. Nous savons aussi qu'entre 1985 et 1987, des artistes ont traité le paysage de la vallée du Lot, mais nous ne savons pas où ni qui exactement. Toutefois, la série Espace naturel midi de Holger Schulz, par exemple, peut évoquer les paysages lotois, notamment par la présence de roches calcaires et de vignes.
Et quel est l'intérêt de ces productions ?
Alors, leur intérêt réside dans les questionnements qu'elles soulèvent, notamment ce relatif à la singularité des lieux traités. Et par ce biais, les territoires sont mis en relation par leurs différences et leurs ressemblances, et la localisation de prise de vue n'a donc que peu d'importance, puisque cette mission s'inscrit dans une démarche globale d'interprétation photographique du paysage français du XXe siècle.
Les paysages du Lot, ils ont été aussi une source importante d'inspiration pour un artiste anglais qui habite la région. Il s'agit de Geoffrey Stride. Il s'installe en 1971 à Vers avec Sally, sa femme. Quelles sont ses inspirations dans le département ?
Alors, dans le département, Geoffrey Stride est largement inspiré par la nature et par la rivière Lot. Il aime par exemple installer son chevalet dans des endroits où le point de vue est dégagé. Mais il lui arrive aussi de peindre au bord du Lot ou depuis un canoë, par exemple. La diversité des paysages du département lui permet aussi de faire évoluer constamment son approche plastique. Et il est par ailleurs stimulé par le fonctionnement de l'œil humain. Donc il est en ce sens pas intéressé par la perspective.
Quel est l'intérêt qu'il fait transparaître dans ses œuvres ?
À travers ses œuvres, on comprend l'intérêt qu'il porte à l'évolution de l'environnement au fil des heures et des saisons. Par exemple, il lui arrive de peindre depuis le même point de vue à différents moments de la journée ou de l'année, ce qui le rapproche en quelque sorte de la pratique de certains artistes impressionnistes.
C'est un peu à l'image d'Henri Martin.
Alors, les deux sont en effet proches de ce mouvement artistique, mais Geoffrey Stride ne se revendique pas comme en faisant partie. Leur intérêt pour les changements de lumière les rapproche, mais d'autres éléments les différencient, comme la signification que donne Henri Martin aux saisons en les associant aux âges de la vie, contrairement à Geoffrey Stride. Également les moyens techniques mis à leur disposition, qui sont propres à leur époque, influencent évidemment le processus artistique, comme l'évolution de l'automobile et le développement des routes praticables. Et enfin, Jeffrey Stride prend la liberté de modifier des éléments esthétiques, mais il ne s'éloigne pas pour autant de l'apparence réelle du lieu, contrairement à Henri Martin qui ne les représente pas forcément fidèlement.
Et donc Sally Strides, la femme de Jeffrey Stride, elle est également artiste, on en avait déjà parlé dans une émission précédente. En quoi leurs œuvres, elles sont différentes ?
Alors, la principale différence dans leur travail se situe dans la manière dont ils abordent le thème du paysage. Sally Stride est davantage intéressée par les jardins et donc le paysage vu de près, en quelque sorte. Elle s'intéresse beaucoup aux détails et fait preuve de beaucoup de minutie lorsqu'elle réalise ses peintures. Jeffrey Stride, lui, il s'intéresse plus aux grands espaces, à leur évolution et à la manière dont il peut représenter différemment un même endroit.
Il y a aussi l'eau qui est pour Jeffrey Stride une source d'inspiration. Comment est-ce qu'il il adapte son cheminement de création pour produire sur l'eau, du coup ?
Alors, il adapte sa technique en choisissant par exemple un médium adapté, comme le pastel, dont l'utilisation est plus facile que la peinture lorsqu'il est en canoë. Et il choisit aussi un format plus petit, ce qui facilite la manipulation du support.
Donc, il ne participe pas à la représentation de lieux patrimoniaux, puisque c'est souvent des paysages, mais pour autant, il participe à la valorisation du territoire lotois.
Oui, alors effectivement, il ne représente pas de monuments historiques ou de lieux patrimoniaux importants, comme a pu le faire Pierre Dora avec Saint-Cyr-la-Popie, par exemple, mais il valorise le territoire de plusieurs manières. D'abord, la variété des paysages du département est mise en valeur par la représentation d'un même endroit à différents moments. Sa préférence pour les lieux moins touristiques permet de mettre en avant ces derniers aussi, et il attire notre attention sur des paysages qui pourraient nous paraître communs, en quelque sorte. Enfin, on peut voir sur certaines de ses œuvres des constructions rurales, comme des ponts, mais elles sont toujours dominées par les éléments naturels, et donc Jeffrey Stride nous présente le petit patrimoine lotois dans son contexte, et l'ensemble des éléments nous paraît comme harmonieux.
Et enfin, le Lot, on ne le sait pas, mais c'est un lieu de résidence artistique. Il y a deux structures, les ateliers des arcs et le dans le village éponyme, et les maisons d'Aura à Saint-Cyr-la-Popie. Quelles sont les missions de ces structures ?
Alors, ces structures sont en fait des résidences d'artistes. Elles ont pour mission d'accompagner et de soutenir la création contemporaine, donc tant sur les points humains, financiers, matériels qu'artistiques. Et elles accueillent des artistes en résidence sur une période définie afin qu'ils développent des projets en relation avec un thème qui est choisi par la résidence. Donc, il peut choisir de tout type de médium, hein, peinture, sculpture, écriture, performance, photographie ou encore installation. Et donc, ces résidences, elles réalisent des expositions collectives chaque année à la fin de la période des résidences pour présenter les œuvres qui ont pu être développées.
La première qu'on a évoquée, du coup, c'est celle des arcs. Depuis quand est-ce qu'elle existe ?
Alors, les ateliers des arcs existent depuis 1988, alors que les maisons d'Aura ont été créées en 2005.
Et qu'est-ce qui démarque la résidence des arcs des autres résidences ?
Alors, un peu comme pour toutes les résidences, elle se démarque par sa situation géographique, par son fonctionnement, par les thèmes qui sont abordés, par la manière dont les œuvres sont exposées, mais aussi par les artistes sélectionnés et par la période durant laquelle ils sont accueillis. Et c'est toutes ces spécificités qui rendent la structure unique et qui permettent le renouvellement des recherches que mènent les artistes.
Et celle de Saint-Cyr, du coup, elle est différente ? Celle de les maisons d'Aura, du coup.
Oui, alors, donc elle a été créée plus tard et son fonctionnement est légèrement différent dans le sens où les candidatures spontanées ne sont acceptées et où deux périodes de résidence sont proposées, par exemple. Donc, les œuvres qui sont réalisées durant les résidences de printemps sont exposées durant l'été dans le parcours d'art contemporain en Vallée du Lot. Et en automne, il sélectionne quatre jeunes artistes issus d'écoles d'art d'Occitanie pour les inviter, ainsi que quelques artistes associés à des programmes internationaux.
Est-ce qu'elles sont connues en dehors du Lot ?
Alors, elles sont pas réellement connues en dehors du Lot, mais il faut savoir que les résidences d'artistes en général ne sont pas bien connues du grand public. Pourtant, il y en existe partout dans le monde, hein, et la plus connue d'entre elles est probablement la Villa Médicis à Rome.
Et ces deux maisons lotoises, du coup, elles ont des différences avec les autres résidences françaises ?
Alors, elles ont la chance de se trouver dans un département rural possédant une riche variété de paysages et où le patrimoine historique, bâti et culturel sont importants. Et c'est ce contexte aussi qui permet aux artistes d'entretenir des rapports particuliers avec les habitants, ce qui influence inévitablement leur séjour et donc leur processus artistique.
Et c'est donc dans le cadre de ces résidences que, durant le printemps 2016, Séverine Hubbard a développé un projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Oui, alors elle en a développé plusieurs, en fait. Ils sont tous en relation avec les étoiles et le paysage lotois de nuit. L'un d'entre eux est titré Constellation, donc il y a Constellation numéro 1 et Constellation numéro 2, car c'est une installation qui se situait de part et d'autre de la D150 aux Arcs. Donc il s'agissait d'une installation composée de 30 bornes solaires d'extérieur, et elles étaient disposées dans un champ au bord de cette route, au cœur du paysage. Et cette œuvre pouvait donner l'impression que le ciel se reflétait au sol et elle brouillait par ce biais les limites terrestres. C'était une œuvre qui était uniquement visible de nuit et qui était donc en ce sens principalement installée pour les habitants, puisque peu de personnes ont fait la démarche de se déplacer en pleine nuit pour voir cette œuvre.
Donc c'est une installation, et dans le cas des installations, les œuvres elles sont soumises aux éléments. Qu'est-ce que ça induit sur l'œuvre en elle-même ?
Alors, elle se dégrade inévitablement, ou s'abîme en tout cas, même si dans le cas des expositions des résidences, elle ne reste que quelques mois. Ça fait aussi partie de la vie de l'œuvre, en quelque sorte, elles évoluent sous les yeux des habitants.
Il y a donc dans ces résidences un foisonnement artistique lié aux contextes locaux et une véritable interaction avec le paysage. À quoi est-ce qu'on le doit finalement ?
Alors, je dirais qu'on doit à la variété des créations contemporaines que l'on peut voir dans le département et aux différentes apparences que peut prendre l'art. Mais on doit bien sûr à toutes ces structures, hein, comme les résidences d'artistes qui encouragent les artistes d'aujourd'hui.
Comment est-ce que ces résidences elles participent à la démocratisation culturelle, finalement ?
Alors, elles y participent en invitant les artistes à s'inscrire dans le paysage et dans le quotidien des habitants. Elles encouragent ces visiteurs privilégiés à apprécier ces créations qui sont accueillies différemment de celles qui peuvent se trouver dans des musées, par exemple. Elles rendent l'art accessible à tous.
Merci Maëlys d'être venue répondre aux questions.
Avec plaisir.
Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la série Le Lot, c'est tout un art.
Merci.